Bonjour, nous nous retrouvons pour Solidarité Plurielle, l'émission de l'Appel Unifié Juif de France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Agnès de Sarthe. Bonjour.
Bonjour.
Avec nous en studio aussi, Digné Nebo. Bonjour. Vous êtes président de l'association Morial. On en parlera tout à l'heure. Avec nous aussi, Fabienne Cohen-Salmon. Vous êtes coordinatrice du Festival des Cultures Juives. Bonjour.
Bonjour, Sabine.
On a un grand plateau aujourd'hui. Avec nous aussi, Valérie Sabat. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication et du marketing du Fonds social et de l'Appel Unifié Juif de France.
Bonjour, Sabine.
Donc bien entendu, vous aurez la parole tout à l'heure. Agnès de Sarthe, vous êtes la seule que je n'ai pas présentée aujourd'hui. Ah, évidemment, vous êtes un de mes écrivains favoris. Vous êtes romancière, vous êtes aussi traductrice, vous écrivez aussi pour les enfants. Moi, j'adore vous lire, quel que soit ce que vous écrivez, je l'avoue. Et de toutes les façons, je ne pourrais pas le cacher, donc autant le dire. Alors, vous êtes là pour votre ouvrage 14 histoires, on va dire, époustouflantes, qui s'appelle « Ce qui est arrivé ». Alors, comment est-ce qu'on prononce leur nom ? Kempinski ?
Comme on veut, moi je prononce Kempinski, mais il n'y a pas de règle.
Alors ça, c'est aux éditions de l'Olivier, comme d'habitude, oui. J'ai envie de dire. Alors, c'est vrai que moi, j'adore vous lire. C'est toujours un cadeau d'avoir un de vos ouvrages entre les mains. C'est un cadeau qu'on chérit et qu'on dévore avec joie comme un bon gâteau. De la tristesse quand on arrive à la fin, parce qu'on a envie d'en lire encore. Et c'est vrai que là, il y a 14 histoires. Alors... Vous nous frustrez un petit peu déjà en nous écrivant que des nouvelles. En plus, vous en mettez que 14. Donc, Agnès de Sarthe, vous exagérez un peu. Mais bon, on a de la chance ce matin. On va avoir le privilège d'avoir une autre part de gâteau avec vous en studio. Alors, c'est vrai que moi, ces gâteaux, là, je les adore. Et je suis toujours triste quand j'arrive à la fin. Mais c'est vrai que je les dévore et que j'ai toujours envie d'aller plus vite en vous lisant. Tellement c'est truculent et époustouflant. Alors là, c'est 14 histoires. Incroyable, hallucinante. Les chutes, alors on va surtout pas les dévoiler, mais les histoires sont plus qu'agréables à lire. Alors évidemment, on a toujours votre syntaxe que j'adore, votre vocabulaire pointu, choisi, méticuleusement choisi, on va dire. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu normal, je suis traductrice, mais bon, quand même. en même temps, on a là à chaque fois donc 14 chutes qui sont incroyables. Et après, on dit, ah oui, c'est vrai, mais qui sont hallucinantes. Alors, on n'en en racontera aucune. On
est bien d'accord. D'accord, très bien, règle du jeu établie.
Parce qu'elles sont... On va laisser le plaisir aux auditeurs de Solidarité Plurielle, puisque ça serait sinon dommage. Alors moi, j'ai envie de vous demander, pourquoi des nouvelles ? Pourquoi vous ne vous êtes pas fatiguée à écrire un roman, Agnès de Sarthe ?
Peut-être que j'étais justement fatiguée. Y a plusieurs raisons. Peut-être que la première, c'était que j'en avais écrit de toute façon. Ça fait des années que j'écris des nouvelles, et que c'est toujours triste d'écrire sans être lu. On a envie d'être lu quand on écrit. Et puis, il y a aussi le fait que la plupart de mes écrivains préférés étaient des novelistes. C'est-à-dire que moi, quand je lis Isaac Bashevis-Singer, je lis ses nouvelles, je lis ses romans. Pour moi, ça ne fait aucune différence. C'est lui que je lis. Donc, comme novelliste, il y a Isaac Bashevis-Singer, il y a Virginia Woolf, il y a Flannery O'Connor.
Pardon de vous couper, mais sur Singer, vous avez écrit un très beau texte,
oui,
qui est paru aux éditions L'Herme, donc dans le supplément sur Singer, un texte magnifique.
Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et c'est vraiment un auteur dont je ne me lasse pas de lire et d'étudier l'œuvre. Alors, c'est vrai que quand on a des maîtres en écriture, on a tendance à vouloir s'essayer à ce qu'ils faisaient eux. Donc, comme ils ont publié beaucoup de nouvelles et que moi, j'avais énormément de plaisir à les lire, je me suis dit, et puis que j'en écrivais de toute façon, je me suis dit, bon, essayons ça. Ce qui n'est pas facile parce que, pour des raisons matérielles, en France, c'est compliqué de publier des nouvelles. Les éditeurs et les libraires français aiment vendre des nouvelles américaines et anglaises, mais pas françaises. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère qui reste... voilà, quand même, pour le prix Nobel de l'année dernière, c'est Alice Munro, qui n'a jamais écrit que des nouvelles. Bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir un prix Nobel, donc ça devrait convaincre les gens quand même que la nouvelle est un art noble. Mais ça reste toujours une forme assez, assez difficile à imposer en France. Donc finalement, il m'a fallu pas mal de courage pour dire à mon éditeur, bah, voilà, moi cette année, ce n'est pas un roman, ce sera des nouvelles. Alors c'est vrai aussi que... que c'était une période où j'étais en compagnie d'un tout petit enfant, d'un tout petit bébé, et que le temps de l'écriture, ça compte pour un écrivain. Et d'ailleurs, c'est Raymond Carver, un immense auteur de nouvelles, qui lui aussi avait été très souvent avec ses enfants, et disait « Une nouvelle, ça prend le temps d'une machine à la laverie. » Alors, j'ai les enfants, et c'était un homme en plus, c'est assez touchant, il disait « Moi, j'ai la machine qui tourne, c'est les blancs 90 minutes, j'ai le temps d'écrire une nouvelle. Et, mais j'ai pas le temps d'écrire un roman. » Et il y a quelque chose comme ça de la durée, de pouvoir tenir l'histoire, de pouvoir en connaître. Alors vous parliez des chutes. Quand on écrit un roman qui soit long, je sais pas, de 700 pages ou qu'il en fasse 200, on ne sait pas au début où est-ce qu'on va. C'est très difficile de savoir, d'avoir en tête tout le développement. Alors que quand c'est une histoire, d'une certaine manière, on la voit du début à la fin. On peut décrire l'objet qu'on se représente parfaitement. Donc il y a un rapport à l'écrit qui est différent. Il y a une sorte de précision qui est un soulagement, parce que l'écrivain de roman, moi je sais qu'en ce moment j'écris un roman, c'est comme si j'étais en train d'avoir 12 chiens de traîneau, tous excités dans tous les sens, un à bois, l'autre part de... C'est, alors qu'avec une nouvelle, c'est l'équitation, vous savez, c'est
comme... chic.
Voilà, c'est ça. Je lui fais lever un sabot, puis l'autre, puis voilà, et ça avance tout seul. Bon, c'est un autre plaisir.
Alors un autre plaisir, est-ce que quand vous écrivez des nouvelles, vous êtes aussi dans l'urgence de la vie?
Oui. Il y a aussi ça, puisque c'était effectivement, j'avais pas beaucoup de temps pour les écrire, et puis aussi un très grand désir de l'urgence de produire aussi, de voir qu'on est capable, qu'on a encore un cerveau, parce que quand on vit avec des enfants, des jeunes enfants, et qu'on s'en occupe beaucoup, le corps est très très utilisé, mais le cerveau est un peu, comment dire, à l'abandon, dans une sorte de jachère. Et là, le fait de pouvoir produire une nouvelle, un texte qui tienne et un texte qui soit exigeant, il peut y avoir une urgence à ça, oui, c'est vrai.
Et c'est assez rassurant pour une maman de savoir que sa tête fonctionne encore.
Ouais, ouais. C'est pas donné, hein.
Dans des grands moments de fatigue que oui. Nous avons tous eu, on l'avoue.
Voilà.
Alors, évidemment, je vais vous demander, est-ce qu'il y a un lien entre ces nouvelles ?
Il y a plusieurs liens. Et ce n'était pas un lien au préalable, c'est-à-dire que je n'ai pas décidé de faire un recueil thématique. J'ai décidé de laisser venir les histoires. Et après, il y en a certaines qui n'en font pas partie du recueil parce qu'elles n'étaient pas des invités naturels de ce recueil. Et puis d'autres qui s'intégraient, elles pouvaient entrer. Donc je me suis dit qu'il y avait une sorte de, comme si vous voulez, comme un portail imaginaire qui laissait ou pas entrer les histoires et que je devais lui faire confiance. Et c'est une fois que je les ai relues, au moment des corrections, que j'ai vu qu'il y avait des liens, mais que je n'avais pas prévu. Alors le lien le plus récurrent, c'est qu'il y a, dans chaque histoire, il y a une rencontre. Chaque personnage commence l'histoire seule et rencontre quelqu'un. Ça peut être une rencontre catastrophique, une rencontre magique, une rencontre heureuse, une rencontre malheureuse. Mais en tout cas, il y a toujours cette confrontation avec l'autre. Ça, c'est un des thèmes. Un autre, après, il y a des motifs. Il y a les oiseaux qui sont là.
Les oiseaux, oui. On les retrouve. Oui. Alors, les oiseaux, ils volent. On a aussi l'impression qu'il y a des moments volés. Enfin, il y a des résonances comme
oui.
ça.
Oui, oui, et il y a aussi alors ça peut être des réseaux thématiques, ça peut être des réseaux lexicaux, c'est-à-dire des mots qui reviennent et qui font écho d'une nouvelle à l'autre, comme si, pour indiquer que ces nouvelles-là sont sœurs, par exemple, qu'on peut les lire en miroir, qu'il y a peut-être un passage secret entre elles.
Alors, il y a peut-être un passage secret, moi j'en ai trouvé un, c'est comme, sur certaines, il y a le fait de se lever au milieu de la nuit.
Oui. Oui, c'est vrai, il y a aussi ça. Il y a aussi beaucoup les heures du jour et les heures de la nuit. Alors ça, il est possible que, ayant écrit ces nouvelles pour la plupart à une période où je me levais pas mal moi-même la nuit, j'avais cette expérience. Et après tout, on écrit aussi avec le quotidien, avec la matière des journées et des nuits. Et c'est vrai que c'est à la fois une douleur et un privilège de devoir se lever la nuit, parce que je vois que je parle à une personne qui comprend, parce que c'est une douleur, parce qu'on est fatigué, parce que c'est pas grave, parce qu'on préférerait dormir et poursuivre son rêve, mais il y a quelque chose du silence de la nuit, de l'exception, d'être seul debout et d'assister au premier chant des oiseaux ou de voir un ciel parfaitement étoilé alors qu'au moment où on s'était couché, les étoiles commençaient seulement à apparaître. Donc il y a des choses comme ça qui sont des moments de beauté volés aussi et qui après s'invitent dans les histoires.
Alors des moments de beauté volée, comme des privilèges, l'impression d'être unique et cette façon de rentrer à nouveau dans la journée, de rentrer à nouveau dans la vie comme un moment exceptionnel. C'est un petit peu comme si c'était extraordinaire d'être vivant d'une journée sur l'autre.
C'est un des thèmes du livre aussi, c'est-à-dire un des ressorts. De toutes ces histoires, c'est le danger qu'il y a dans le quotidien, dans l'ordinaire du quotidien, c'est-à-dire le danger de l'ennui, le danger de la tristesse, le danger de l'effacement, le danger de disparaître dans sa propre vie, d'être piégé à l'intérieur de sa propre vie. Et de façon différente, c'est comme si chaque nouvelle illustrait une solution, ou parfois ça marche, parfois c'est un échec, pour survivre, et survivre en fait au simple quotidien, parce qu'il n'y a pas de situation réellement catastrophique. Donc c'est vrai que ça aussi c'est un des thèmes qui revient.
Alors je vais bien sûr vous demander votre nouvelle préférée.
Alors ma nouvelle préférée, c'est très difficile à dire, parce que c'est comme quand on me demande lequel de mes livres je préfère. Je manque de recul, et puis il faudrait que je les lise pour pouvoir répondre à cette question. Et en fait, quand on écrit, on ne lit pas vraiment son propre texte. Quand on le lit, on ne le lit pas comme le lecteur le lit. On le lit de l'intérieur. Donc c'est comme quand vous entendez votre voix enregistrée, vous avez l'impression que c'est pas votre voix, parce que vous l'entendez de l'intérieur. C'est pas la même voix qu'on entend du dehors et de l'intérieur. Donc moi, quand je lis mes nouvelles, je pense aussi à l'état dans lequel j'étais quand je les ai écrites, ou le plaisir qu'elles m'ont donné à écrire, ou la difficulté qu'elles m'ont donné à écrire. Alors, je n'ai pas du tout un avis, un avis réel. Il est très, très mélangé. Moi, je vous retourne la question. Vous en avez peut-être des préférés, vous, Sabine?
Bien sûr, j'en ai des préférés.
Je ne sais pas si vous avez envie de le dire.
Mais... Bien sûr, je peux le dire. Faire son piano, est-ce que c'est comme une déclaration d'amour, et c'est à la fois l'amour au quotidien qui peut être difficile, mais aussi transcendant. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire son piano. Puis faire son piano, c'est une expression qu'on a tellement entendue ou tellement dit à nos enfants qu'un jour, c'est vrai, on a presque arrêté de l'entendre. Mmh. Et c'est aussi la difficulté de l'amour, puisqu'on vit dedans, et parfois on peut arrêter d'entendre l'amour de l'autre ou d'arrêter d'entendre son propre amour pour l'autre, ce qui est un danger terrible. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire son piano. Et j'ai beaucoup aimé L'homme à la tête de hibou, puisque ça, c'est la fascination de l'amitié. Et l'amitié est aussi beau que l'amour. Et terriblement dangereux.
Ouais, là, c'est vrai que c'est une nouvelle très, très cruelle. C'est un hommage à Zweig aussi. Le recueil, il est aussi... parcouru de références à des auteurs que j'aime, des auteurs
Agnès
de nouvelles.
De Sartre, on les sent, ils sont là, un petit peu comme des fantômes bienveillants.
Oui, mais et d'ailleurs ils sont cités, puisque c'était tellement une évidence dans L'homme à la tête de hibou. Ça se passe sur un paquebot, et tout se passe pendant une croisière. Et à un moment, à la fin de la nouvelle, le narrateur se désigne lui-même comme l'amok de la croisière, et amok étant une novella de Stefan Zweig. Et j'étais obligée de citer mes sources, parce que c'était tellement une nouvelle qui empruntait à sa façon de faire qui est souvent la même, qui est: je ne raconte pas directement une histoire, je raconte une histoire qu'on m'a racontée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mise en abîme, et que c'est d'une certaine manière une façon de parler de la littérature pour dire qu'on n'invente jamais rien. Une histoire est toujours l'histoire que quelqu'un a racontée à quelqu'un, qu'il a racontée à un autre, d'ailleurs qui a été déformée au passage, etc. Et moi, j'aime beaucoup cette conception de l'histoire comme si l'histoire était son propre auteur. Qu'il n'y a pas vraiment d'auteur. L'auteur, l'écrivain, il est une sorte de véhicule, de viatique. Il est là pour... il est un lieu de passage. Et moi, ça me va très bien, cette définition.
Oui, c'est ce que vous dites souvent, en fait, que vos personnages vous envahissent, que ce n'est pas vous qui les maîtrisez, mais eux qui prennent possession de vous.
Oui, c'est ça. Et c'est très agréable quand c'est le cas, parce que d'une certaine manière, ce qui gouverne, ça n'est pas moi, ça ne sont pas mes petites manies, mes petites envies, mes passions, etc. C'est autre chose qui, à mon avis, est beaucoup plus noble et plus intéressant, et qui a à voir avec les grands mouvements de l'histoire et de la littérature. Moi, je me méfie beaucoup des individus. Je crois beaucoup en l'humanité, mais je me méfie des individus. Et je me méfie de moi-même.
Pourquoi vous méfiez des individus, Agnès de Sartre ?
Moi, la première, hein, parce qu'on est infiniment faillible, parce qu'on veut plaire, parce qu'on est habité de passions contraires. Et donc, je suis très idéaliste, et je suis utopiste, etc. Mais je sais que... Mais très pessimiste aussi, parce que je vois bien que c'est compliqué.
En deux mots, vous êtes ashkénaze, quoi.
Et pourtant, en un mot, j'aime bien, en deux mots, vous êtes ashkénaze, en trois ou un. C'est pas mal.
Donc, c'était l'homme à la tête de Hibou sur la fascination amicale. Lettre ouverte aussi, elle est aussi très, très, très belle. Enfin, en tout cas, 14 histoires qui sont époustouflantes. Alors, on attend la chute, mais on ne l'attend pas. Moi, j'avais toujours envie que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, la prochaine fois, soyez gentils. Vos nouvelles, faites-les-nous un petit peu plus longues quand même. Non, parce que là, on a envie... Enfin, alors, en même temps, vous faites le tour de l'histoire des personnages. Donc, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Mais c'est un petit peu comme de la gourmandise, quoi.
Mais l'idée, pour moi, c'est d'arriver... C'est la miniature, c'est-à-dire, c'est d'arriver à je ne sais pas si vous avez déjà vu ces œuvres très étranges qui sont des sculptures dans des graineries.
Et j'avoue ne pas les comprendre.
Mais c'est un drôle de truc, parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Mais dans la nouvelle, il y a comment installer un monde et créer un monde qui tienne entier dans un très petit espace. Et dans mon expérience, j'avais l'impression que la nouvelle, alors que c'est un espace bref et réduit, permet presque plus de liberté que le roman et permet d'inventer un monde plus large, plus complet, dans lequel on a tout dit en très peu de temps. Et c'est un mystère d'ailleurs pour moi, parce qu'il y a pour moi une proportion inversée entre la charge de réel et d'émotion qu'on arrive à mettre dans un si petit espace. Et en revanche, le roman, moi je sais qu'il m'arrive de lire des romans, y compris des romans que j'aime, où il y a certains moments où je me dis, bon, bah ouais, voilà, pendant ces 20 pages, on aurait pu faire autre chose, hein, j'aurais pu aussi bien aller, je sais pas quoi, me promener, parce qu'il sait pas, parce qu'il n'y a pas l'intensité.
Mais ça, je ne me le dis jamais quand je lis un de vos romans, Agnès de Sartre.
C'est gentil, Sabine. J'essaye de ne pas le faire, mais je sais que même dans des romans pourtant très beaux, il y a des moments bon et qui font partie aussi du roman, mais qui sont des moments de relâche, on ne sait pas trop, ou alors des moments où on a voulu remplir, parce que c'est rassurant pour un écrivain de remplir des pages aussi. Alors que là, il y a une sorte d'économie. Il y aura pas de gras, il y aura pas de.
Ah non, là voilà. tout est percutant. Oui. Dire, chaque mot est à sa place, a un sens et donne du sens en même temps. Donc on est, c'est un petit peu comme on est pris donc sur les rails et on y va quoi. C'est vrai que c'est impossible de lâcher en cours de route une nouvelle, c'est impossible. Et c'est vrai que dès le départ vous nous attrapez, vous nous cadrez et on reste. Alors d'habitude vos romans, je les lis en règle générale d'une seule traite. Je vous l'avoue, et j'y retourne après. Mais alors là, celui-là aussi, c'est impossible de ne pas le lire d'une traite, quoi. C'est génial.
Alors que la proposition, une histoire, ça peut être, comme on fait avec les enfants, une histoire par jour, ça peut être...
Oui, mais bon. Voilà. On va dire que je suis trop gourmande. J'ai mangé la tablette de chocolat en une fois. Voilà. Donc, ça s'appelle « Ce qui est arrivé au Kempinski ». Agnès de Sartre aux éditions de l'Olivier. Ça parle évidemment d'amour, de mort, d'oiseaux qui volent, de lever au milieu de la nuit, de tout ce qu'on aime chez vous, saupoudré de fantômes,
oui.
De Zweig, de Singer. Parce qu'on a aussi, dans votre écriture et dans vos histoires, de la folie qu'on aime tant de chez Singer.
Surtout la présence du surnaturel de manière complètement naturaliste. C'est-à-dire que le démon entre dans la pièce comme la femme de ménage ou comme un professeur entre en salle des professeurs. C'est une entrée aussi simple que ça.
Alors c'est à la fois déjanté et réaliste.
Oui, mais c'est un peu ça le défi. Et c'est ça aussi qui, moi, me convainc complètement chez Singer et que j'essaye de faire là. À un moment, il y a une femme, je ne dévoile rien en disant ça, il y a une femme qui est contactée par le diable pour lui vendre son âme. Et c'est fait de manière très réaliste. Je me suis juste dit, poser la question, je me suis dit, tiens, pourquoi c'est toujours des hommes qui vendent leur âme au diable? Pourquoi on ne voit jamais des femmes en conversation avec le démon qui lui dit alors combien, tu me l'as fait à combien, etc. J'ai voulu essayer cette situation, mais c'est vrai que je l'ai mise en scène de manière le plus réaliste possible, avec une conversation, avec un marché, avec un contrat, avec voilà, mais dans l'ordinaire de la vie de cette femme.
Alors, votre livre n'est pas ordinaire, Agnès de Sarthe, évidemment, moi je le conseille, le surconseille. Le roman que vous écrivez, on l'aura quand ? Au boulot ?
Ben, dans un certain temps, parce que là, vous serez contente, Sabine, il est... Oh, lui, il est gros, hein.
Oui, mais bon, ça veut dire que je vais l'attendre pendant longtemps. Après, vous allez me dire, oui, mais il faut que je fasse un bébé entre-temps et tout. Donc,
non,
bon.
Non, c'est bon.
Alors, on l'aura quand ?
Je ne sais pas encore. Il est en train de se faire et je ne sais pas...
Un an, 2 ans ?
Oh oui, 2 ans max, ouais. On va dire.
2 ans max ?
Ouais, je pense.
Bon.
J'espère.
Alors, on va vous laisser retourner travailler, Agnès de Sarthe. Merci beaucoup.
Merci à vous,
Je rappelle
Sabine.
Le nom de votre ouvrage. Donc, c'est 14 nouvelles époustouflantes les unes plus que les autres. Alors, évidemment, on en préfère certaines, chacun les siennes. Vous pouvez jouer avec vos amis et vendre aux autres celles que vous préférez. Ça serait très amusant. Ça s'appelle « Ce qui est arrivé au Kempinski ». On dit comme ça, finalement, ou pas ?
Comme vous voulez.
Comme je veux. Oui. Oh, c'est toujours la liberté avec vous, j'adore. Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, Agnès.
Merci, Sabine.
Avec nous aussi, Fabienne Cohen-Salmon, vous êtes coordinatrice du Festival des cultures juives. Alors, le Festival des cultures juives, c'est un moment qu'on aime tout particulièrement. Alors, on rappelle les dates, ça commence, enfin surtout, on rappelle que c'est le 10e anniversaire, on ne plaisante pas avec ces choses-là.
Oui, 10e anniversaire, donc cette année, et ça commencera donc le 10 juin, donc du 10 au 26 juin, donc presque 3 semaines de festivités,
à Paris.
D'échanges interculturels, voilà, de fêtes en plein cœur de Paris, comme
un peu,
chaque année.
Un peu partout, toutes les mairies,
oui,
enfin beaucoup de mairies y participent.
Et puis de nouveaux partenaires cette année, je pense par exemple au club très branché Le Réservoir, au musée Carnavalet qui nous fait vraiment le grand bonheur d'être partenaire cette année, au Carreau du Temple également qui a rouvert et qui avec qui on retravaille cette année après 10 ans donc justement d'absence puisqu'ils étaient en rénovation, en reconstruction. Là cette année ils seront un nouveau partenaire. Il y a aussi le bar Los Mexicanos dans le 9e arrondissement, la Ciguénagogue Copernic également qui est partenaire du festival.
Parce que là, vous passez un peu à l'ouest. On est surtout sur
voilà,
le centre de
là,
Paris, 3e, 4e, 5e, 9, 10, 11.
On a énormément d'arrondissements
12,
qui participent.
C'est impressionnant.
Donc voilà, et puis un programme extrêmement riche, extrêmement varié, avec de très 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 beaux temps forts cette année, une très belle ouverture qui est malheureusement ou heureusement complète. On va accueillir...
Quoi, vous êtes déjà complète pour l'ouverture ?
On est complet pour l'ouverture.
Ou alors n'en parlez pas.
on va pas en parler
du tout. Vous allez parce mettre l'eau à la bouche à tout le monde et
voilà.
Après vous allez dire, mais il n'y a pas de place.
On a une très très belle clôture puisqu'on accueille le plus grand mandoliniste du monde. Il est israélien, il s'appelle Avi Avital. En plus, il est magnifique, il est tout jeune, il vient avec son équipe de musiciens, il sera accompagné du Paris Chamber Orchestra pour un final grandiose au théâtre Déjazé le 26 juin. Et là, il reste encore de la place, donc j'invite les auditeurs à réserver leur place pour la clôture du festival au théâtre Déjazé, en appelant le théâtre Déjazé ou sur la FNAC.
Alors,
et évidemment,
Fabienne,
tout au long du festival.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, on a parlé de l'ouverture complète. Le 26 juin à Via Vital. Qu'est-ce qui se passe au milieu ?
Bah écoutez, qu'est-ce qui se passe au milieu ? Plein de choses. Je voudrais parler un peu de mes coups de cœur. Je voudrais parler du groupe Soulia.
Vous allez faire des jaloux. Hein.
Voilà, le groupe Soulia qui est un jeune duo rhythm and blues méditerranéen qui est absolument génial. Et ils se produisent le lendemain de l'ouverture, donc le mercredi 11 juin au club Le Réservoir dans le 11e arrondissement. Donc là, je vous invite vraiment à prendre vos places. C'est un cadre très très chaleureux, ça va être une ambiance très très cosy. Soulia était là l'année dernière, ils ont eu une standing ovation et on n'a pas résisté donc à l'idée de les reprendre cette année. Il y a également je sais pas quoi vous dire parce que c'est voilà, c'est
alors,
tout simplement
des conférences, des concerts, des films, des expositions aussi
des
cette
ateliers,
année.
Oui, des expositions en mairie du 3e, à la bibliothèque polonaise de Paris, dans le Marais également, qui est un nouveau partenaire cette année. Donc oui, évidemment, des expositions, également des conférences, comme vous l'avez dit. Un très, très beau concert le lundi 16 juin, ici, à l'espace Rachid, où on va accueillir le magnifique groupe klezmer Sirba Octet, composé donc de musiciens de l'orchestre de Paris pour un concert spécial à Yiddish Mamé qui va clôturer une journée qu'on a appelée Yiddish Day.
Yiddish, alors il y a un atelier cuisine.
Le dimanche 22 juin, ici également à l'espace Rachi, on accueille une pièce de théâtre de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard.
Alors on rappelle quand même que le thème du 10e festival, c'est bien sûr aimer. Parce que pour nous, c'est tellement évident, mais c'est l'amour. Aimer.
C'est aimer. C'est aimer sous toutes ses formes. Aimer l'autre. Aimer les Ashkénazes. Aimer les séfarades.
Attention, Fabienne. Faites attention
voilà, je
à ce
ça comme ça. Moi, attention, je dis rien.
Attention, on va voir tout à l'heure avec Nié Debeau, donc, qui est président de l'association Mémorial, Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie, qui est là. Mais ne commencez pas. Agnès de Sarthe est encore là avec moi.
C'était pour faire écho donc, à ce qui était dit avant. Voilà. Donc oui, le jeu de l'amour et du hasard, le 22 juin à l'espace Rachi, ici même au 39 rue Broca, qui va être là aussi une pièce pleine de couleurs et qui fait écho d'ailleurs à l'histoire de Pourim, puisque le jeu de l'amour et du hasard, c'est évidemment le chamboulement, on ne sait plus qui est qui, c'est le déguisement, le quiproquo. Donc on sera en plein là aussi dans l'histoire.
Donc Marivaux au Festival des cultures juives.
Voilà, exactement. Et puis un très très beau concert également le lundi 23 juin. Alors ici aussi, on accueille le groupe judéo-espagnol Arboleras, qui vient spécialement de Madrid, qui est proposé par nos amis de l'association Aquí Estamos, qui est également un partenaire du festival depuis de nombreuses années. Et donc c'est un concert spécial sur les chants de mariage judéo-espagnol le lundi 23 juin. Donc tout ce riche programme est en ligne sur le site internet du festival, www.festivaldesculturesjuives.org. La billetterie est en ligne. Vous pouvez donc acheter, imprimer vos billets. Je voudrais juste rappeler, Sabine, que les prix sont vraiment, les tarifs sont vraiment modiques. Ça va de 5 à 13 euros. Donc voilà, on essaie vraiment de privilégier des tarifs très bas pour
alors, tarifs très bas, ça veut dire qu'il faut vraiment réserver à l'avance.
Exactement, Sabine.
Ça se remplit très vite.
Voilà.
Alors il y a même un événement pour vous, Agnès de Sarthe, puisqu'on parle de Bashevis Singer, avec une conférence de Fleur Kuhn, donc qui est docteur en littérature comparée, auteur d'une thèse sur les métamorphoses romanesques de la mémoire juive. Donc là, on parlera de l'érotisme chez Singer en mairie du 3e.
Voilà, exactement.
Merci.
Très bien.
Alors, avec nous, Fabienne, de toute façon, vous reviendrez à ce micro, ou Paul-Henriette Lévy, la directrice du Festival des cultures juives, pour nous en parler encore plus précisément. De toute façon, tous les renseignements, bien entendu, sur le site. Avec nous, Digné Nebeau, vous êtes président de l'association Montréal, comme je disais tout à l'heure, alors Mémoire et Tradition des Juifs d'Algérie, et vous venez nous présenter un événement très très spécial sur l'histoire d'un consul portugais à Bordeaux pendant la guerre, une histoire extraordinaire.
Oui, nous sommes donc nous aussi partenaires du Festival des Cultures Juives. Nous avons deux manifestations, une typiquement, plus spécifiquement juive d'Algérie, on va en parler quelques secondes après.
Avec plaisir.
Et une seconde, le consul de Bordeaux, qui est ce consul portugais qui, pendant la guerre, en 1940, a sauvé de la déportation, on peut dire ça comme ça, parce qu'il a délivré des milliers, des milliers, des milliers de visas à des juifs, à des non-juifs aussi, il faut le dire, qui voulaient fuir le nazisme et qui étaient réfugiés donc à Bordeaux. Donc ce consul portugais a enfreint les lois données par son pays pour délivrer justement ces milliers de visas qui ont fait que beaucoup de juifs ont été sauvés, sont partis au Portugal, ensuite aux États-Unis, la plupart d'entre eux. Et ce consul a été remercié de façon violente.
Comment ce consul ?
Il s'appelait Aristide de Souza Mendes et il a été remercié de façon violente par donc, les autorités portugaise, puisque en 1940, alors qu'on apprenait qu'il délivrait des visas à tour de rôle, on lui avait dit « c'est fini, vous repartez ». Et même, il y avait trois sbires de Salazar, on va dire ça comme ça, qui étaient là pour le surveiller. Et pendant qu'il est surveillé, il continuait à délivrer des visas pour que tous ces juifs puissent passer au Portugal et après ailleurs. Donc ce consul a été démis de ses fonctions. Il rentre au Portugal. Il est mort dans la misère et il a été reconnu comme juste parmi les nations en 1966 par Yad Vashem. Et un ami, enfin quelqu'un que je connais, a fait donc un long métrage, une fiction aussi, mais sur cette histoire extraordinaire, a fait donc un long métrage, une fiction, racontant l'histoire de ce consul. Cette fiction, c'est en fait une journaliste qui travaille dans un quotidien de Lisbonne qui se rend compte que un homme, excusez-moi, c'est l'émotion aussi, même si je suis séfarade, je suis touché par tout ce qui touche à l'Ashkenazi, si on peut dire ça comme ça. J'ai même écrit un livre sur on en parlera peut-être un jour si vous le souhaitez, sur un prêtre qui sauva de la déportation. Je suis médecin à Lausée aussi. Hein. Et un livre sur un prêtre qui sauva de la déportation une vingtaine de jeunes filles juives dans un endroit qui s'appelle la Sainte-Baume. Et ce prêtre n'a pas été reconnu comme juste parmi les nations, par contre, parce que certaines se sont converties. Enfin, c'est une histoire un peu complexe. J'ai découvert des documents absolument impressionnants que personne n'avait. J'en ai fait un livre. Par contre, ce monsieur de Souza, pour revenir à lui, parce que c'est l'objet du film qui sera projeté le dimanche 15 au Festival des Cultures Juives, justement à l'espace Broca. Donc, pour revenir à ce consul du Portugal, ce consul donc, qui fut reconnu comme juste. Donc il y a un long métrage, une fiction qui existe sur ce personnage mythique presque et qu'il faut reconnaître à nouveau.
Alors le consul de Bordeaux, on est pratiquement dans un film qui j'imagine pourrait faire écho à la liste de Schindler finalement.
Oui, un petit peu.
Alors un film très très intéressant, c'est vrai que c'est incroyable de découvrir au 21e siècle encore des justes, même s'il a été reconnu donc, dans les années 60. Souza Mendes, portugais, et c'est vrai que certains ont fait un travail fantastique pour sauver des juifs pendant la guerre et n'ont pas hésité à mettre leur vie en jeu pour sauver les autres. Et ça fait bien sûr des films magnifiques avec des histoires vraies, on va dire heureusement, malheureusement, je ne sais pas. Qu'est-ce
deux.
Que vous en pensez, Didier Debout ?
Malheureusement, les deux. Je pense que le premier juste fut Job, comme tout le monde ne le sait peut-être pas. Et ensuite, aujourd'hui, il est à souhaiter qu'il n'y ait plus, après, dans un second temps, plus de juste. Ça voudra dire que le monde, tout au moins pour nous, juifs, sera de nos points de vie en paix. Effectivement, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais pourquoi pas, on peut rêver, puisque vous avez écrit un certain nombre de nouvelles, et moi ça m'intéresse aussi beaucoup, et on peut espérer qu'on soit tous un jour dans une humanité de paix et de solidarité.
On l'espère. Vous avez aussi une autre manifestation dans le cadre du Festival des Cultures Juives ?
Nous avons une autre manifestation, deux jours avant, le 13, puisque nous sommes une association de juifs séfarades d'Algérie, qui s'appelle l'Algérie et l'amour de la terre natale. Et donc là, c'est une série de conférences débats concernant ce pays que nous avons quitté, dans lequel nous avons vécu non pas 60 ans, non pas deux siècles, mais 2000 ans. Et c'est cette perspective, cette dimension qu'il faut montrer, qu'il faut marquer. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes partis de là-bas où il n'y a plus de juifs en Algérie, ça s'inscrit dans la longue marche du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est un peuple multimillénaire avec des histoires partout fantastiques, que ce soit en Égypte au moment de Pharaon, que ce soit dans la Russie, que ce soit cette déportation, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc. Nous, on a vécu certes 2000 ans, mais ça va s'inscrire plus tard. C'est pour ça que nous allons créer dans notre association un musée virtuel sur les Juifs d'Algérie. Ça s'inscrira, on l'offrira après si on a la chance de perdurer, que cette histoire marche fort chez nous.
Parce on l'offrira à un musée. Elle va marcher.
Et ça s'inscrit dans la lignée donc du peuple, de l'histoire du peuple juif. Donc, nous avons un certain, donc sur le flyer, ce que je vous offrirai tout à l'heure, nous avons fait 3 extraits de textes pour montrer comment on était attaché à la terre d'Algérie. Peut-être 3 petites lignes comme
3 petites lignes, oui, plus, Didier Nebeau.
Par exemple, il est dans le désert, mon héros, le héros le sable dans l'étendue infinie du désert prouvait qu'il était l'unique croix de cet univers mouvant. Il était libre. Notre David, libre de penser, de rire, d'agir. Ce voyage à travers le désert lui apprenait le sens du mot harmonie. La caravane avançait, pas à pas, dans l'océan indifférent des dunes.
Alors on est là directement donc, dans l'Algérie, l'amour de la terre natale. Ce sera donc le vendredi 13 juin à 14h30 à la Maison de l'Europe, avec des témoignages de Marcel Benkemoun, de Pierre Halimi et Jean-Pierre Stora, grand spécialiste de l'Algérie. Une table ronde animée par Hubert Habib et Guy Lévy. Alors tout ça, c'est grâce à l'association Morial, donc, qui est un des participants au festival...
Partenaire du festival des cultures.
Juive, donc 10e anniversaire, et mai, on retrouve tout le programme sur le site du festival ou sur le site, bien entendu, du Fonds social. Alors, le site du Fonds social, je me tourne vers vous, Valérie Saba, puisque vous êtes la directrice de la communication et du marketing. Le site du Fonds social, j'imagine que ça vous parle. Mais moi, pour l'instant, j'ai envie de vous parler de l'immédiateté, parce qu'on est bien sûr dans l'urgence aussi à l'appel unifié. On a parlé la dernière fois de la campagne ISF. La campagne ISF, elle continue. On peut encore donner donc, à la fondation du Fonds social, même si on est au premier seuil de l'ISF, si on fait sa déclaration sur Internet. C'est bien
absolument,
ça ?
Absolument, Sabine. Alors, moi, je voulais vous dire, je n'ai pas tellement le beau rôle ici, puisqu'on a parlé d'amour, de passion.
Vous
parler d'impôts.
Grâce à cet argent collecté, on peut venir. Absolument. En aide à des gens qui en ont besoin. Et donc moi, je pense que vous avez un très très beau rôle ici, Valérie.
Vous avez entièrement raison, parce qu'on va parler solidarité. Et c'est là l'essentiel, je pense. Avec votre don à la Fondation FSJU, dans le cadre de l'ISF, si vous êtes redevable de l'ISF, si vous devez vous acquitter de cet impôt, vous pouvez financer, supporter, soutenir des programmes qui viennent en aide aux plus démunis. Et je pense que c'est vraiment là l'essentiel.
Alors comment ça se passe quand on paye l'ISF? Déduire ça de l'ISF, si j'ai bien compris ?
Pour les patrimoines qui vont jusqu'à 2 570 000 euros, vous aviez jusqu'au 20 mai par écrit, mais vous avez pour Paris, je crois, jusqu'au 10 juin sur Internet pour faire votre déclaration. Dans le cadre de cette déclaration, vous pouvez faire votre don à la Fondation FSJU sous l'égide de la Fondation du judaïsme français et vous aurez donc, dans ce cadre-là, une déductibilité de 75%. Avec ce don, nous, le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France, soutiennent des programmes en France et en Israël qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Alors, je peux vous en dire quelques mots.
Quel genre de programme ?
Des aides très concrètes. En Israël, par exemple, une grande banque alimentaire qui vient en aide à des populations qui en ont besoin, donc des biens de première nécessité, des bons d'achat pour des médicaments également.
Alors, on en a souvent parlé à ce micro. Israël est une société très développée, avec un taux de croissance énorme. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner le chiffre de l'année
2013, mais on est en positif et bien au-dessus de la France.
Absolument,
et de l'Europe. Alors, c'est vraiment une société à deux vitesses ?
Absolument, des gens sont laissés pour compte. Il faut le savoir, c'est une société qui est très dynamique, qui est très jeune, qui fonctionne d'un point de vue économique de façon brillante, mais qui a aussi ses laissés pour compte. Et il faut s'attacher à défendre les intérêts des gens qui n'ont pas forcément notre chance. Et nous le faisons par le biais de ces associations qui travaillent directement, qui travaillent sur le terrain pour venir en aide à ces populations.
D'accord.
Donc, c'est vraiment fournir des biens de première nécessité, venir en aide également à des enfants qui ont besoin de soutien scolaire, qui sont pris en charge dans des centres spécialisés, qui n'ont pas forcément des contextes familiaux très, très simples et très faciles. Également, donner des bourses à des étudiants qui sont méritants, mais qui viennent de milieux défavorisés, qui n'ont pas les moyens d'accéder aux universités prestigieuses. C'est
on
un
sait
moyen.
Que les universités ne sont pas gratuites.
Absolument, absolument.
Et alors pour la France, quel genre de programme ?
Alors, nous avons des enfants dans les écoles qui ne peuvent pas tout simplement déjeuner à la cantine parce que leurs parents n'en ont pas forcément les moyens. Nous leur venons en aide, nous leur donnons des bourses la Talmide, qui sont financées également par votre don à la Fondation FSJU. Et puis le Fonds d'urgence solidarité qui va fournir une aide directe, une aide concrète, une aide matérielle, une aide immédiate à des gens qui sont dans le besoin, qui ne peuvent pas payer une facture d'électricité, de gaz, qui ne peuvent pas payer un loyer et qui ont besoin qu'on agisse vite. Donc on a ce fonds que nous avons mis en place qui leur vient en aide très directement. Les bourses vacances également, des enfants qui n'ont pas les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens de payer. Alors, les vacances.
Je vais faire ma réponse habituelle, il y a les bons de la CAF pour ça.
Oui, mais ils ne sont pas suffisants, Sabine. Et puis, je voudrais dire, on le sait, on a une communauté qui est particulièrement généreuse. L'ISF, certains d'entre vous doivent s'en acquitter. C'est de toute façon un impôt qu'il vous faudra payer. Autant le mettre à contribution, autant le dédier à une cause noble, aider l'autre. Et puis, nos proches, moins proches, mais des gens qui en ont besoin. Et c'est une réalité qui existe. Et je crois qu'il faut voir en face. Et pour laquelle il faut se battre, contre laquelle il faut se battre.
Alors Valérie, on peut déduire jusqu'à combien de son impôt ?
75% dans le cadre de l'ISF.
Ça veut dire que si on verse 75% à la fondation FSJU, donc sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, on n'a pas besoin de régler ces 75% à l'État.
C'est tout à fait ça.
D'accord, donc il reste que 25% à régler à l'État. Donc finalement, ça ne coûte rien.
Alors, y a une...
Est-ce qu'on pourrait s'exprimer grossièrement comme
non,
ça ?
Non, il y a une partie de dons, mais 75% de ce qui va être donné à la fondation FSJU sera déductible.
Donc c'était de l'impôt qu'il fallait de toutes les façons
qu'il
payer.
Fallait de
donc finalement,
façon payer.
C'est la même chose,
donc,
sauf qu'on change l'ordre du chèque.
Et absolument, absolument. Donc vous libellez votre chèque à fondation FSJU. Vous pouvez aussi aller sur Internet. Donc vous allez
sur le site
fondation.
Fondation FSJU
alors, je vais vous dire ça.
De toute façon, on retrouve toutes ces infos sur le site de l'Appel Unifié Juif de France, j'imagine.
fsju.fondationjudaïsme.org. Et vous avez la possibilité de faire votre don en ligne.
Alors, don en ligne, on rappelle le nom du site, s'il vous plaît, Valérie.
Alors, fsju.fondationjudaïsme.org.
fsju.fondationjudaïsme.org. De toute façon, on retrouve toutes ces informations sur le site de la Fondation du judaïsme français, j'imagine.
Absolument, Sabine. Et on peut également rentrer en contact direct avec Josiane Attias, qui va donner des informations détaillées sur la façon de faire son don. Et la procédure au 01 42 17 11 17.
01 42 17 11 17. Donc, pour en savoir plus sur votre impôt, comment le verser à la fondation et ça fera.
Et pour les patrimoines qui dépassent, Sabine, pardonnez-moi, 2 570 000 euros, vous avez jusqu'au 16 juin.
jusqu'au 16 juin. Les patrimoines supérieurs, 2 570 000, c'est fantastique ça. Donc, et j'imagine voilà. que ça fait donc un impôt, enfin on est limité je pense à 50 000 euros de dons pour l'ISF quand même. Ça fait beaucoup d'argent tout ça. Hein.
Absolument.
Et donc ça fait
pour
beaucoup.
Financer de beaux programmes.
Ça peut financer beaucoup de beaux programmes. Je voulais tous vous remercier. Bon festival, Fabienne.
Merci Sabine.
Didier Nebot, j'ai envie de dire beau site et j'espère que vous viendrez nous reparler de votre musée, que ce sera plus qu'un un musée virtuel, mais vous aurez suffisamment de force pour faire un musée, j'en suis certaine.
Merci.
Valérie, ça va à très très bientôt.
Merci,
donc nous, je voulais aussi remercier la technique et on se retrouve le 25 juin puisque le 4 juin, c'est fête. Bonne journée, au revoir.
Au revoir, Sabine.